Aujourd'hui dans Bouffon, je vous propose un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit du nouveau podcast pop culture du studio Nouvelles Écoutes qui s'appelle Les Mains dans la Pop. Il est animé par le trio de journalistes humoristes formés par Audrey, Kumbis et Mao qui décryptent chaque jeudi l'actu et les tendances pop culture de la semaine. Si vous voulez tout savoir du retour dans l'actu des actrices Pamela Anderson et Jennifer Coolidge ou comprendre comment 10% a révolutionné les codes de la série française, alors ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Je vous laisse découvrir le premier épisode des Mains dans la Pop, c'est parti.
Les mains dans la pop.
Ok. Les mains dans la pop.
C'est les mains.
C'est ma nouvelle obsession.
Mais dans la pop. Bienvenue à tous et à toutes dans Les Mains dans la Pop. Ici Mao Drama et en face de moi,
Audrey.
Audrey, belle enfant, chers auditeurs, chères auditrices, dans ce podcast incroyable, je dis pas ça parce que c'est nous qui le faisons, mais c'est évidemment la raison pour laquelle je le dis, il y aura des actus, des tendances, du décryptage de pop culture, mais aussi des gloires, des déboires de célébrités qu'on aime et déteste en secret, tout à la fois car nous sommes des êtres inconsistants. Vous pouvez lâcher les réseaux, on scroll pour vous. Alors chers amours, j'espère que vous allez bien, et chère Audrey, le soleil qui n'est pas dans le ciel est-il dans ton cœur? Façon romantique et complexe de dire, est-ce que ça va?
Mais le soleil, c'est toi, Mao. Et en parlant d'astres, bah, figure-toi que ça va beaucoup mieux depuis que Mercure ne rétrograde plus dans tous les pans de ma vie.
Eh bien, j'en suis ravie et on commence tout de suite avec de l'actu chaude en bouche qu'on a besoin de sortir tout de suite pour pas se brûler la langue. Et quoi de mieux que de décerner nos lauriers pour les losers et les winners de cette semaine?
Win ou lose, oui. Telle est la question.
Quel loser?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop. Cône.
Le gagnant ou le perdant de la semaine?
Roulement de tambour. Il s'en est passé des choses cette semaine. Et il y a eu la mobilisation du 19 janvier, ce photographe espagnol qui a dû se faire amputer d'une couille après une violence policière. Il y a eu Beyoncé de retour sur scène à Dubaï après 4 ans d'absence. Il y a eu Kylie Jenner au défilé de Schiaparelli, incroyable, avec une immense tête de lion sur sa robe. Des réactions au coup d'État au Pérou. Mais alors, de toutes ces incroyables informations qui sont nos héros, qui sont nos bolos, Audrey, on commence tout de suite avec toi et avec la personne que tu auréoles de succès, car vive le journalisme positif.
Et ouais, vive le journalisme positif. Et donc, à l'occasion de sa prochaine sortie pour son album le 27 janvier, pour moi, la winneuse de la semaine, c'est Aya Nakamura, qui a fait la couverture du M, le magazine du Monde. C'est une couverture qui a été photographiée par le photographe Joshua Woods, qui a déjà shooté Assa Traoré pour ce même magazine. Et d'ailleurs, c'est pas la première couverture de Aya Nakamura, puisqu'elle a fait la couverture du Vogue, du Vanity Fair et de Gradia, rien que ça. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Aya, c'est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. C'est comme ça que le magazine M du Monde titre sa couverture. Et son succès, il est tel que les gens n'ont même pas le temps de dire Pookie pour que les places de son concert à l'Accor Arena s'arrachent. Résultat, il y a 3 dates qui sont complètement complètes. Et donc, sur cette couverture du magazine, on la voit prise un peu de dos sur une moto, le regard et l'air conquérant, sûrement en route vers d'autres succès. Et elle revient de loin, Aya, puisque son succès auprès du grand public, longtemps, il a été complètement en décalage avec les critiques des élitistes des médias.
Absolument.
Ouais, qui pensaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir dire ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon. Et selon eux, justement, Aya, c'était mauvais.
Ouais, mauvaise façon de parler, rythme nouveau.
C'est ça, exactement. Elle était critiquée sans relâche pour le langage qu'elle utilise dans ses chansons. Alors que bon, il n'y a pas le même esprit critique pour les paroles des chansons des autres chanteurs-chanteuses de variété française. Enfin, je pense que toutes les paroles sont loin d'être des prix Nobel de la littérature. Mais enfin bon, son nom, il était continuellement écorché sur tous les plateaux de télévision, alors qu'il n'est pas plus compliqué à prononcer que d'autres noms.
Voici Yaka Nakamura.
Elle a été souvent rangée dans la catégorie de rap, alors qu'elle fait clairement pas du rap.
Non.
Sûrement parce qu'elle est noire et parce qu'elle vient de banlieue. Et enfin, pour couronner le tout, elle a été victime de misogynie noire. C'est-à-dire qu'elle a été renvoyée à un stéréotype de l'angry black woman. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un joli mix, en fait, que les femmes noires se tapent, de sexisme, de classisme. Et de racisme. Donc, c'est un stéréotype selon lequel les femmes noires, elles sont promptes à l'agressivité, à la colère. Elles se mettent tout le temps en colère, quoi.
Ouais.
Elle a également été beaucoup hypersexualisée, sans cesse réduite à son physique, qui était soit jugée très sexuelle, elle était très fétichisée, ou soit très masculin. Donc voilà, c'est vraiment l'apanage des femmes noires. Et malgré ça, elle a réussi à tirer l'épingle de son jeu. Comme je disais tout à l'heure, elle a énormément de succès jusqu'à l'international. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de voir une femme noire, surtout dark skin. C'est rare, en couverture d'un grand magazine. J'aurais aimé qu'elle n'ait pas à subir tout ça, là, ouais, pour pouvoir avoir autant de succès. Mais quand même, je tenais à célébrer cette couverture. Bah bravo, Aya.
Ouais, de ouf, bravo, Aya.
Donc voilà, pour moi, Aya Nakamura était la winneuse de la semaine. Et toi, Mao, c'est qui le gros loser de la semaine pour toi ?
Alors, le gros loser de la semaine pour moi, c'est un petit loser. C'est un loser magnifique qui est un peu winner aussi. Voilà, j'ai décidé de parler d'un homme qui est en demi-teinte pour moi, un peu en mi-molle. Et je suis une femme, j'ai l'habitude, je sais de quoi je parle. Lol ! Je vais parler évidemment de Olivier Faure, magnifique loser, un peu gagnant, réélu de façon serrée et contestée à la tête du Parti Socialiste, avec 51,09% contre le maire de Rouen, Nicolas Maillet-Rossignol. Alors je me suis un petit peu renseignée pour essayer d'expliquer pourquoi je trouve à la fois que c'est un winner et un loser, mais plus loser que winner. Enfin bon, vous avez compris, dans la vie tout est nuancé, on peut pas toujours faire de clichés, sauf quand on parle de Aya Nakamura. Le saviez-vous, le vote du Parti Socialiste pour son élection de secrétaire interne se passe en deux tours. D'abord, les militants PS votent pour des idées avant de voter pour un chef. Contrairement par exemple aux Républicains qui recherchent eux des figures charismatiques providentielles comme De Gaulle il y a longtemps ou comme récemment Jean-François Copé. Pas la même carrure, mais enfin bon, on a les idoles qu'on mérite. Les idées et le débat démocratique sont plus chers a priori pour le PS que les égaux. Donc le parti a même, en poussant le curseur loin, un parlement interne constitué de 300 membres qui décident des directives, des prises de position tout au long de l'année du Parti Socialiste. Cet organe, du coup, il amène des lenteurs et des blocages, mais en même temps, c'est ça le jeu de la démocratie. Dans un État autoritaire, ça va plus vite, mais ça va plus mal. Regardons en Russie au hasard. Et donc, plusieurs textes ont été soumis aux militants et militantes PS qui s'appellent des textes d'orientation et celui d'Olivier Faure a gagné à 49%. Et l'enjeu principal des trois programmes qui étaient proposés, en fait, à part quelques broutilles, c'était le maintien ou non à l'intérieur de la NUPES. Parce que la NUPES, elle est dirigée principalement par les insoumis parce qu'ils sont numériquement majoritaires. Et en fait, ça crispe certains éléphants du PS dont les sièges partent à la trappe lors des négociations entre tous les partis. Mais l'enjeu avec la montée de l'extrême droite, est-ce que c'est pas tout simplement de gagner, de s'unir face au danger, quitte à laisser ses mandats derrière soi pour offrir un bien commun plus important ?
Peut-être.
Proposition pour le bonheur. En tout cas, le fiasco en termes d'union, il est terrible parce qu'au sein du PS, tout le monde se déchire depuis l'élection du second tour jeudi dernier du nouveau chef, parce que dans la nuit de jeudi dernier, il y a à la fois le maire de Rouen et Olivier Faure qui se sont déclarés vainqueurs, quasiment au même moment. Le lendemain, ils se sont dit « Quoi ? On est tous les deux vainqueurs ? Non, t'as triché !» L'autre, il a fait « Non, c'est toi qui as triché !» Tu vois, c'était un peu genre « Non, c'est toi et tout. »
Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Marc Frevel.
Comment faut-il vous présenter ce matin, premier secrétaire autoproclamé du PS ?
Écoutez, vous avez des gens qui pensent qu'un bon congrès est un congrès qui se passe mal. Moi, je pense l'inverse. Je pense que nous avons au contraire à adresser un message d'espoir aux Françaises et aux Français. Et tout ça relève malheureusement de la mauvaise polémique.
Pour finalement décider qu'on va avoir des commissions de recomptage qui sont allées revoir l'ensemble des voix. Et finalement, il y a 4 jours, dimanche dernier, a bien été nommé vainqueur Olivier Faure. Mais vainqueur de quoi ? Vainqueur d'un tout petit parti qui représentait moins de 2% aux dernières élections présidentielles. Il faut se rappeler qu'Anne Hidalgo, elle a même pas réussi à rembourser ses frais de campagne.
Ouais.
Et je me disais juste un truc qui était dommage, tristoun, de pourquoi du coup je le trouve un peu loser et en même temps cool Olivier Faure. C'est que du coup, je me suis mise à écouter ses interviews et à le regarder un peu plus, ce gars. Et franchement, il est assez fin. Et le problème, c'est juste qu'il manque cruellement de charisme. Je me suis dit, est-ce que Audrey, tu vois quand dans une salle, il y a un mec qui rentre et il est solaire ? Tu vois un peu genre un gars comme ça qui a un aura ? Ouais. Et bah, Olivier Faure, c'est le mec à côté de ce mec-là.
Derrière lui.
Absolument. Et alors, être le roi d'un désert, quel intérêt ? Oui, mais si ce désert représente les moins de 2% qui manqueront en 2027 pour battre Marine Le Pen, alors ça prend toute son importance de garder l'idée d'union au sein du PS et de la NUPES en général. On vient de voir maintenant mon loser favori tout près de mon cœur puisque j'ai une tendresse particulière pour le PS et pour les gens qui aiment les roses. Et toi Audrey, qui est ton loser de la semaine ?
Alors moi j'ai vraiment aucune tendresse pour ce loser puisque pour moi c'est même pire qu'un loser, c'est un agresseur tout simplement. Alors je parle de Percy Hines White, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais ce n'est pas grave. C'est l'acteur qui joue un des protagonistes principaux de la série Netflix Mercredi, donc le biopic de la famille Adams, qui se concentre sur le personnage de la fille. Eh bien, figure-toi qu'il est accusé d'abus, d'agression sexuelle et de viol sur mineur, rien que ça.
Un CV impressionnant.
Ouais, et selon plusieurs témoignages, au lycée et à l'université, bah, l'acteur et ses amis, ils s'amusaient à manipuler des filles dans le but de coucher avec elles, et ils partageaient des photos de nus sans leur consentement. En plus de ça, il aurait agressé des mineurs, donc de 13, 14 ans, pendant des soirées qu'il avait organisées dans des caves, des sous-sols, donc
de mieux en mieux
sombres. Et sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo justement qui tourne, je ne sais pas si tu l'as vue, de Jenna Ortega. Mm-mm. C'est l'actrice qui interprète Mercredi. Et ça la montre en fait faire un mouvement un peu de recul et elle a une expression de dégoût lorsque l'acteur se rapproche d'elle pour prendre une photo. On s'imagine que c'est à cause de toutes ces accusations, on la comprend bien. Et puis, il y a aussi un hashtag qui tourne, le hashtag Cancel Percy, qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc, selon les rumeurs, même si Netflix ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, l'acteur canadien de 21 ans, bah, il va peut-être pas faire long feu pour la prochaine saison de Mercredi, puisqu'il y a de nombreux témoignages de jeunes filles qui l'accablent complètement avec plein de preuves. Et c'est tant mieux s'il n'est pas dans Mercredi, on est ravis. Donc voilà pour le gros loser de la semaine de mon côté. Et toi, Mao, est-ce que bah, t'as un winner, un truc un peu plus positif ?
Oui, oui, j'ai un truc positif. Une petite boutade de la part de Mediapart qui a décidé de baisser son abonnement mensuel pendant un petit temps avec une offre spéciale à 4,93€ en référence à...
Je sais pas.
Le 49.3. Oh. Voyons cette notion dont on devient extrêmement habitué depuis quelques temps. Le 49.3, c'est cette disposition étonnante de la Constitution de la Ve République qui permet de faire adopter un texte sans le faire voter par les chambres parlementaires. Voilà, c'est vraiment... Tu décides un truc dans un jeu sans les autres. Ça avait été pensé en fait pour contrebalancer les défauts de la 4ème République qui était instable parce qu'à l'époque, il y avait trois partis au Parlement qui étaient également majoritaires. Comme aujourd'hui, maintenant qu'on est sorti du clivage gauche-droite, on a la même disposition. Ce qui amène du coup à une instabilité parlementaire. Et donc pour éviter ça, le gouvernement se dit tant pis, cap ou pas cap, moi en tout cas, je mets autant de 49.3 que je veux.
La France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023. Et le temps presse désormais. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie.
Et c'est toujours étonnant pour moi que des gens qui ont fait l'ENA, qui créent les lois, décident de ne pas suivre les règles qu'ils ou qu'elles défendent. C'est comme un Uno, mais où tu forces les autres à jouer avec les règles que ton petit cousin t'a apprises en vacances en Ardèche en 2013. Subtilité de l'affaire. Pour contrebalancer ça, lorsqu'un 49.3 est déclaré par le gouvernement, alors le Parlement peut s'unir pour faire voter une motion de censure. Si elle passe à la majorité, alors le gouvernement doit démissionner. Ça s'est jamais passé, à part une fois sous Chirac. Mais si ça arrive, tu peux faire plus 4 contre nos... nique ta démocratie. Alors je félicite Mediapart, organe d'information indépendant et enquêteur hors pair, pour ce pied de nez, car quand on n'a plus rien, il ne reste que l'humour. Comme le dit le célèbre dicton, mettre de l'épée. Du beurre dans, avec du rire dans les... Non, personne dit ça.
Les pinards, tout ça.
Non, parce qu'en fait, le rire, ça se mange pas malheureusement, mais ça permet juste de garder la banane. Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine ?
Vous avez des idées ?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ?
Elle a osé.
Le sujet de la semaine pour ce premier épisode, c'est la dépersonnalisation de Gwen Stefani. Quel rapport entre la chanteuse, sa gamme de parfums et le Japon ? Attention, c'est très simple, l'appropriation culturelle. Et oui, on en mange et on en remange avec elle. On vous explique tout. Dans une interview datée du 10 janvier dernier pour Allure Magazine, l'icône des années 2000 du groupe No Doubt se raconte. Alors petite, son père, qui voyageait beaucoup, lui racontait les us et coutumes des quartiers colorés de Tokyo, dont celui d'Harajuku. Nom éponyme de sa dite gamme de parfums. La passion, voire l'obsession, ou bien l'appropriation, on en discutera dans cet épisode, pour le look et les filles Harajuku. C'est-à-dire, pour ceux qui ne voient pas, des vêtements très colorés, un maquillage flashy de poupée, avec des joues toutes roses, des grands yeux, ne date pas d'hier. En 2004, elle signait un album solo, Love Angel Music Baby. Et je vous le donne en mille, oui, grosse surprise, tout le branding tournait déjà autour de la culture japonaise. Son apparence, les danseuses qui l'entouraient, les visuels de communication. Son imaginaire se serait tant nourri de la culture japonaise pendant son enfance et son adolescence que lorsqu'elle se rend elle-même dans ce pays, la surprise est... Total, voilà son pays d'origine. Elle l'assure, Elle s'identifie comme japonaise et Twitter le lui assure, il l'identifie comme voleuse de culture. Et comme le rappelait un article de Mademoiselle qui est sorti récemment, la chanteuse du groupe No Doubt est une habituée du genre. Elle récidive, persiste et signe comme une provocation. Gwen Stefani, en 2014, c'était déjà une native américaine avec une coiffe blanche traditionnelle dans le clip Hot. J'ai vu le clip et oui, j'étais outrée alors que je connais des gens qui sont blancs et qui portent des dreads. Donc c'est vous dire, quand même. En 2021, c'était de nouveau une apparition jugée problématique dans le clip Light My Fire de Sean Paul. Parce qu'elle se présente comment ? Eh bien, j'en parlais avec des dreads blondes. Oh là là, on dirait presque qu'elle fait des bolasses à Aurillac. Mais non, c'est une superstar d'Hollywood. Elle avait aussi une robe aux couleurs de la Jamaïque et des tweets se moquaient d'elle en disant « Mais dis donc, elle serait jamaïcaine ? Lol. » Alors, pourquoi cette sortie nous a donné envie de nous pencher pour ce premier épisode sur la question de l'appropriation culturelle ?
Petit rappel sur l'appropriation culturelle, qu'est-ce que c'est ? Alors, cette expression qui fait systématiquement froncer les sourcils de Marie-Jeanne et de Nicolas, qui aimeraient bien pouvoir se déguiser en geisha et en rasta, en paix, pendant leur rallye ou leur soirée d'école de commerce, eh ben, figurez-vous que c'est plus complexe que ce qu'on pense. Si vous avez froncé des sourcils par rapport à ce que je viens de dire, peut-être qu'il faut vous remettre en question, peut-être que vous êtes comme notre chère Gwen Stefani, qui ne voit pas où est le problème de pimper ses outfits de clip avec des coiffes natives américaines ou de prétendre être japonaise parce qu'elle a passé 10 jours à Tokyo. Donc, tendez l'oreille et écoutez ce qui suit.
Donc, je suis tout oui. Nous sommes tout oui.
C'est ça, merci Mao. Alors, il y a appropriation culturelle. En fait, quand on reprend les traditions ou des éléments esthétiques d'une culture à laquelle on n'appartient pas.
Okay.
Ensuite, quand on les détourne de leur sens premier, en les stigmatisant, en les fétichisant, en les sexualisant, ou alors en les tournant en ridicule. Et quand on en tire un profit financier sans impliquer les personnes concernées, sans les créditer, sans les citer et même sans même leur demander leur avis d'ailleurs. Donc, je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Imaginons une designeuse de mode à succès qui reprend les dessins traditionnels d'une communauté minorisée d'un autre continent et puis qui vend ses créations plagiées au prix fort à des bobos occidentaux qui veulent un brin d'exotisme dans leur garde-robe. Le tout sans verser le moindre centime aux concernés, sans même les citer et encore moins leur demander leur opinion. Bah ça, c'est de l'appropriation culturelle.
On pense à personne, mais des grandes chaînes comme Zara et H&M.
C'est ça, exactement. Et puis, c'est un exemple à peine inspiré d'une certaine marque française.
Ah.
Isabelle Marant.
Oui.
Il y a assez de sources d'inspiration dans la culture française, je pense. Bordel.
Preuve d'énervement.
C'est ça. La plupart des codes, finalement, et des esthétiques qui sont victimes aujourd'hui d'appropriation culturelle et qui sont devenues tendance, autrefois, elles étaient lourdement réprimées, elles étaient moquées. Et donc, c'est ça aussi le problème, c'est que certaines cultures minorisées, elles sont devenues valides seulement à partir du moment où elles ont été récupérées par des cultures dominantes, disons-le, par les blancs et les blanches. Donc, la plupart sont rebrandées et montrées comme quelque chose de complètement nouveau, alors qu'elles existent depuis toujours, finalement, dans certaines cultures. Gwen Stefani, figure-toi que c'est pas la seule chanteuse à avoir fait parler d'elle pour des histoires d'appropriation culturelle. Non.
Mais non.
Non, ce serait trop beau. En 2013, il y a aussi la chanteuse Katy Perry qui a suscité la controverse parce qu'elle a porté une tenue sexy inspirée des geishas pour les American Music Awards en interprétant son titre Unconditionally.
Ok.
Et puis, il y a aussi Selena Gomez lors de l'interprétation de Come and Get It, qui est quand même une chanson très suggestive, dans l'émission Dancing with the Stars, aussi en 2013, décidément l'année de l'appropriation culturelle. Et ben, elle portait une tenue inspirée des hindous et elle s'est mise à danser sur une choré de type bollywoodienne, très très loin des coutumes ancestrales d'Asie du Sud. Mmh. Et puis, enfin, il y a aussi Miley Cyrus, qui a porté un bindi sur le front, tu sais, c'est ce bijou significatif sur le plan spirituel et culturel, et là, qui avait complètement perdu son sens avec la chanteuse.
Et en plus, tu me fais une liste un petit peu sans fin, on dirait que les stars, c'est en fait, ça. Ne comprennent pas la leçon.
Pas du tout. Et ça concerne aussi les traits physiques. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une interview pour Mademoiselle en 2021, avec la journaliste brillante Rokaya Diallo.
Brillantissime.
Ouais, brillantissime. À propos de son documentaire qui s'appelle Beautiful, donc il y a un jeu de mots avec booty, donc les fesses, et beautiful, beau. Et donc elle disait à propos de la mode des grosses fesses, il y a un effet Kim Kardashian qui s'est approprié une esthétique associée aux femmes noires et qui a modelé sa silhouette en fonction de ça. comme ce n'est pas une femme noire, davantage de personnes se sont identifiées à cette esthétique et c'est devenu un critère
Absolument.
De beauté enviable. Alors c'est facile de plagier à tour de bras puis de crier à l'appréciation culturelle quand on est épinglé. En revanche, quand il s'agit de prendre la parole sur les inégalités, les injustices vécues par ces communautés soi-disant appréciées, on voit rarement les Gwen Stefani et Kim Kardashian prendre parole. En général, les personnes qui font de l'appropriation culturelle, elles sont rarement ou jamais d'ailleurs discriminées à une échelle systémique par tous les codes et esthétiques qu'elles admirent tant.
Et ben merci beaucoup Audrey. Et maintenant que tu nous as développé tous les arguments et les explications intrinsèques à l'appropriation culturelle, on va passer à la pratique. Soit de questions que je me suis posées, soit de questions que d'autres personnes ont pu se poser. On ne sait pas, on verra.
Oh là là, ok.
Alors, attention, tournons au gros jeu. Appréciation culturelle ou appropriation culturelle, si je me fais des tresses?
Sur la question, il y a plusieurs avis. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément d'appropriation culturelle à proprement parler si toi, dans ton coin, tu te fais des tresses, puisque tu ne fais pas d'argent sur un business, tu ne t'appropries pas toute une culture, etc. En revanche, je suis toujours gênée par des personnes d'une culture dominante qui vont reprendre des codes d'une culture minorisée. On va leur dire, ouais, c'est super beau, c'est tendance, c'est chouette,
etc. Oui, tu dirais, si une personne noire l'avait fait, ce qu'on dirait, ce que tu disais, une personne blanche, elle prend un code, on dit que c'est magnifique.
Voilà,
la personne à qui ça appartient, elle le prend, on est en mode genre, ultra communautaire.
Exactement. Et je me souviens d'une anecdote, moi, quand j'étais encore une fois au collège et que pour la première fois, j'avais fait des tresses avec des rajouts, vraiment. Pour le coup, c'est vraiment une anecdote qui pourra répondre à ta question.
Ouais.
J'avais fait des tresses pour la première fois, j'étais très contente, donc j'arrive au collège. Et en fait, j'ai eu beaucoup de remarques racistes qui me disaient que c'était sale, que c'était moche, que c'était des cheveux en plastique, etc.
Oula,
et peut-être un mois plus tard, une personne blanche avait fait la même chose avec des rajouts, donc des tresses. Et là, tout le monde, c'était vraiment pas les mêmes réactions,
ouais,
c'était vraiment magnifique.
Parlant.
C'est donc,
la
voilà,
mise en
c'est
pratique.
Hyper parlant. Donc je pense que c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Il y a un truc un peu dissonant, je trouve.
Ou plus complexe pour quelqu'un, pour quelqu'un qui vote à droite. Si j'ouvre un restaurant de spécialité ivoirienne, moi, Mao, blanche, d'origine italienne, je sais, je suis très métisse.
qui est allée une fois en Côte d'Ivoire et qui, du coup...
Dans un contexte de j'y suis allée, ils ont un grand cœur, j'adore cette culture.
D'accord.
Le dromadaire, c'est mon animal fétiche.
Mais du coup, je te dis non.
Merci.
Tu ne peux pas ouvrir de restaurant de spécialité ivoirienne. En tout cas, ça serait bizarre que toi, toute seule, sans l'aval de personnes de cette culture, sans une équipe composée de personnes de cette culture, ouvre un restaurant de spécialité ivoirienne.
Je comprends bien. La prochaine question, elle a à voir avec, pas un fait divers, mais un fun fact, fait marrant en anglais, de Ariana Grande, qui en 2019 a voulu se faire tatouer sur la paume de la main 7 rings, mais en mandarin. Elle poste la photo sur les réseaux sociaux et il est écrit « petit barbecue ». Ce qui était donc la preuve qu'elle ne connaissait pas du tout la culture et tout ce qui accompagnait l'esthétique qu'elle voulait mettre sur la paume de sa main. Donc, question. Si j'arbore, disons, un tatouage japonisant ou polynésien, mais sans connaître leur signification, appropriation ou appréciation ?
Bah, alors, déjà, ça serait bien de savoir ce que tu mets sur ton propre corps, de connaître la signification de la chose que tu t'inscris. Et puis, bah, moi, personnellement, dans ma culture, il n'y a pas forcément ce problème du tatouage. Mais pour répondre à la question, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux quelqu'un qui s'exprimait sur le sujet. Et
ouais.
Je pense que ça peut répondre à ta question.
Oui.
C'est une personne qui disait « Voir des personnes blanches porter en toute détente les mêmes tatouages pour lesquels mes ancêtres ont été massacrés me met dans une rage sans nom. » Et fair enough.
Ça fait sens.
Ça fait sens.
Et alors, peut-être une des dernières questions. Si Gwen Stefani dit qu'elle est japonaise et qu'elle utilise l'esthétique du Japon pour vendre des produits, appréciation ou appropriation ?
Appropriation. Au bûcher, Gwen
Le
Stefani.
Le verdict tombe.
La sentence est irrévocable.
Aïe! Oula, le feu, ça brûle!
Ça me fascine!
Au bûcher!
Ok, ok, ok.
Ding dong, c'est la sorcière!
N'importe quoi!
C'est l'heure de la rôtisserie! Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine! J'aurais brûlé en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique! Car oui, Mao, à qui vas-tu t'attaquer aujourd'hui? Arrêtez d'être dans ma tête, je vais vous le dire! Aujourd'hui, je passe au grill une femme, Et oui, ma misandrie, pour une fois, prend à RTT. Je me mets en grève générale. D'ailleurs, non à la retraite à 102 ans. Voilà, c'est juste une petite insert. Car oui, on n'a pas peur de prendre des positions fortes de gauche dans un podcast qui est produit par Nouvelles Écoutes. Quel courage! Mais c'est pour vous parler de l'acquitator anglo-saxonne des prédateurs sexuels. J'ai nommé Eleanor Laws. Une femme pour défendre ceux qui blessent son genre. C'est la première des stratégies pour cette quinca ténor des barreaux britanniques qui défend toujours des hommes accusés de crimes sexuels. Car c'est bien connu, rien de mieux qu'un militant noir chez Marine Le Pen pour dire « on n'est pas raciste » ou un militant gay près de Christine Boutin pour dire « c'est ma Dalida à moi » et la street cred est dans la poche. Moi-même, en teuf, j'ai un ami sobre pour dire « Mao n'est pas ivre en soirée, elle est juste scorpion ». Alors, quand on a commis un crime sexuel, on choisit une femme comme Eleanor Laws pour se défendre. Ses faits d'armes. Eh bien, après avoir réduit à néant Amber Heard, victime de violences conjugales, qui avait bien besoin d'un dernier coup sur le ring médiatique. Évidemment non, ce que je viens de faire s'appelle une litote, une figure de style rhétorique qui appuie l'inverse de ce que l'on vient de dire. Apprendre en s'amusant, oui, c'est le pari fou de cette chronique. Par la même occasion, Eleanor Laws a fait de Johnny Depp une grande victime de la malfaisance féminine. Vachement pratique, parce que maintenant, depuis ce procès, les masculinistes en soirée, ils peuvent te dire « Oui, les survivantes disent vrai, sauf quand elles mentent, un peu comme Amber Heard !» Et son dernier fait d'armes, Benjamin Mendy, acquitté à l'unanimité du jury pour 6 viols. Nous y reviendrons plus tard. Alors, en me renseignant, j'ai pu voir que son business a toujours été de bon goût. Litote encore, je veux dire l'inverse. Parmi ses anciens clients, on compte plein de personnalités, c'est souvent des mecs connus, genre l'ancien footballeur gallois Chad Evans, mis en cause pour une affaire de viol, l'ex-entraîneur anglais Barry Bunnell, reconnu coupable de pédocriminalité, ou encore Richard Holden, homme politique britannique, accusé d'agression sexuelle. Si un film biographique sortait sur elle, ce serait vraiment « Le diable s'habille en Hermine ». En avocate. D'abord, moi, petite question, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur son nom. Je veux dire, la meuf s'appelle Laws, loi en anglais, pour quelqu'un qui représente sa perversion. Tu sais, c'est un peu contre-intuitif. C'est comme si Angelina Jolie, elle s'appelait Angelina... Quelle femme se cache derrière ce personnage mystérieux qui ne répond pas aux interviews en sortant des tribunaux? Eh bien, c'est une discrète blonde, cendrée, la cinquantaine. Pas de photos, pas d'interviews, c'est un peu la Mylène Farmer des cours d'assises, elle se fait rare. Elle a été admise au barreau de Londres en 1990. La plaidoirie pour ses clients et le contre-interrogatoire, c'est son dada. Elle est nommée conseillère de la reine en 2021. Alors qu'est-ce que c'est être conseillère de la reine? C'est un statut honorifique réservé à des avocats éminents. Que dire? Le pouvoir réserve de drôles de distinctions à ceux qui servent le pouvoir, dans ce cas précis, le pouvoir patriarcal. Et comme je l'énonçais en début de rôtisserie, elle a un aller simple pour l'enfer grâce à son dernier coup d'éclat, Benjamin Mendy, relaxé de 6 plaintes pour viol, eh bien c'est elle. Là où elle passe toute répasse, calache, calache, référence, confession intime, apprendre en s'amusant, oui, c'est le pari fou de cette chronique. Même une descente de police chez cet ancien joueur de Manchester, même une chambre forte pour perpétrer des rapports forcés pour qu'on n'entende pas les victimes, tout ça, elle a réussi à le faire complètement annuler. L'occasion de se rappeler que lorsque vous dites 1% des plaintes de viol aboutissent, eh bien faux, vous avez tort. Selon le ministère de la Justice, 0,6% des plaintes de viol aboutissent à une condamnation. Alors la recette du succès pour Eleanor Laws, c'est que chaque pays a une législation particulière. Et en Angleterre, si on a un doute, ça profite à l'accusé. C'est en défaveur du plaignant. Donc si t'as un doute, alors il est disculpé. Elle mène également de façon très offensive des contre-interrogatoires qui ponctuent le procès. Sa méthode consiste à décrédibiliser la parole des plaignantes et à remettre en question leurs témoignages en revenant sur les petits détails pour instiller ce doute chez les jurés. Par exemple, à une des victimes, elle dit « Mais alors pourquoi être revenu chez lui s'il vous a vraiment violé ?» Il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu reviens chez ton violeur. Tu peux être sous emprise, tu peux avoir oublié un truc. Enfin, il y a plein de raisons.
C'est vraiment la phrase pour culpabiliser la victime en plus.
Sûrement une femme qui le kiffe et puis du coup qui veut avoir une célébrité notoire. Enfin bref. Et malgré une suspicion, il est possible que le joueur retourne dans son club de Manchester City, j'ai envie de te dire, mais encore une carrière gâchée par les femmes. Pas du tout. La vie des hommes continue. C'est la vie des victimes qui s'arrête. En juin, Benjamin Mendy repasse devant les tribunaux pour un ultime viol sur lequel le jury, cette fois-ci, n'a pas trop réussi à trancher. Voilà, billet première classe pour l'enfer, Eleanor. Le train va bientôt partir pour l'enfer, mais enfin, Ici, on accepte la pluralité des voix. Bon alors, Audrey, si tu devais être l'avocat du diable de Eleanor, comment la défendrais-tu ?
Alors là, en fait, tu me demandes de faire l'avocat d'une avocate qui défend des diables, c'est ça ? Ok, super. Bah, je vais parler très lentement pour que les 30 secondes que tu m'as accordées passent un peu plus vite, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'arguments pour défendre cette horrible personne, mis à part que peut-être le rôle d'un ou d'une avocate, c'est d'apporter un soutien juridique à son ou sa cliente, que ça, elle doit le faire malgré sa culpabilité et que toute personne est censée avoir accès à une défense, blablabla. Enfin, à part ça, je vois pas trop. Je trouve quand même ça assez étrange comme choix de carrière que de défendre des violeurs et des hommes violents à tour de bras. Enfin bon, je m'égare, là je suis plus trop l'avocat du diable. Disons que soit elle a pas trouvé d'autre créneau que de défendre des hommes ignobles pour se faire de la thune et se faire une place dans un milieu qui est hyper sexiste.
Oui, être une femme dans un monde d'hommes, il fallait qu'elle survive 10 secondes, Audrey.
C'est ça. Et chaque soir en rentrant chez elle, elle épluche des petites annonces pour se reconvertir dans une autre carrière et elle pratique l'autopunition pour s'absoudre de ses péchés de la journée. Ou alors... elle est contrainte par la menace d'un groupe secret d'incels dont elle a été assignée et désignée l'avocate officielle. Eleanor, porte du rouge lors de ta prochaine audience si tu as besoin d'aide.
J'aimerais tellement que tu aies raison. Bravo de l'avoir défendue. Je veux croire que cette femme est otage d'un groupe d'incels. Mais pourtant, Audrey, malgré cette défense, mon verdict wokiste est sans appel. Ce sera au bûcher. Oh.
C'est quoi ta reco ?
Whatever.
Franchement, c'est vraiment hyper niche.
Je l'ai vu sur Twitter.
J'ai pas envie d'être méchante.
Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors attention, je suis émue d'avance, rien que de savoir que je vais vous partager ce qui a été pour moi la meilleure performance que j'ai jamais vue de toute ma vie.
Oui, qu'est-ce donc ?
Rien que ça. Alors je sais pas si tu connais Rebecca Chaillon, Mao, mais c'est une des performeuses et metteuses en scène que je préfère.
Oui.
Elle apparaît dans le génialissime documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie sur les femmes afrodescendantes. Elle a aussi créé La Compagnie dans le ventre en 2006. C'est une afroféministe, une militante queer d'origine martiniquaise, donc forcément ça me parle. Elle travaille beaucoup autour des normes corporelles, du corps nu, de la nourriture. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je suis allée voir une performance qu'elle a mise en scène et dans laquelle elle joue pas. Ça s'appelle « Plutôt vomir que faillir ». C'est à propos de l'enfance, de la famille, de l'éducation, du corps, des injonctions. Bref, c'est un joyeux mélange qui part absolument dans tous les sens. Tu ris, tu pleures. Et bref, en sortant de là, ma copine m'a fait promettre d'aller voir « Carte noire, nommé désir ». C'est une autre performance qu'elle a écrite. Et elle m'a dit « Si t'as l'occasion d'aller la voir, vas-y ». Alors malheureusement, vu que j'oublie tout, j'ai complètement zappé de checker si la pièce passait à Paris. Mais puisque l'univers est bien fait, j'ai reçu par hasard une invitation de cette pièce en question par email de la part d'amis de Censored Magazine. J'y suis allée, un peu naïvement, j'avais pas vraiment regardé de quoi la pièce parlait en amont et j'étais sûre par contre de passer un bon moment, comme toujours avec Rebecca Chaillon. Bref, pendant l'attente, il y a une voix préenregistrée qui donne des informations sur la performance. Alors, on nous dit dans la petite voix qu'il y a des strapontins classiques où les spectateurs et spectatrices sont priés de s'asseoir. Et puis de l'autre côté, un espace réservé dans la salle. Alors, réservé à qui ? Aux femmes et aux personnes non-binaires noires. Alors là, première surprise, je m'éternise pas trop dessus. Puis en rentrant, on me propose directement d'aller m'y asseoir. Et effectivement, juste en face des strapontins, de part et d'autre de la scène, à hauteur du public, eh bien, il y a un espace qui dénote un petit peu, avec des gros fauteuils, des gros canapés hyper confortables, réservés aux femmes et personnes non-binaires afrodescendantes. Donc avec mes potes, on est super contents et contentes, on y va, on se dit que c'est une super bonne idée pour une pièce qui traite de nous, de nous offrir un peu cet espace en non-mixité finalement. Donc je ne savais pas vraiment ce qui allait nous attendre, mais je ne veux pas trop en dire pour les personnes qui voudront y aller. Je ne veux pas spoiler, mais sachez simplement que cet emplacement, il est clé dans le spectacle et qu'il compte vraiment, en fait. C'est pas juste du décor.
Vous êtes devenus des personnages principaux au bout d'un moment ?
Je ne dirai rien. Bref, en tout cas, Carte noire, nommé désir, c'est vraiment un ovni, je trouve, de performance. Je n'ai vraiment pas vu les 2h40 passer. Et je ne vais pas tout révéler, mais en gros, c'est une carte blanche petit jeu de mots avec le titre de la pièce, avec 8 interprètes afrodescendantes qui mêlent chant, humour, il y a des textes politiques, il y a des textes poétiques sur tous les stéréotypes en fait que les femmes noires peuvent vivre au cours de leur vie. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions avec le public. Il y a des performances circassiennes carrément. Il y a un décor comestible.
Ah bon?
Et j'en passe, ouais.
Tu m'as eu à ça.
C'est ça, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises, beaucoup de mystères. Je laisse planer le doute.
Incroyable.
Et le thème principal de la pièce, c'est la vision coloniale et occidentale du corps des femmes noires, sa fétichisation, son objectification et sa sexualisation.
Une performance qui serait une sorte de conte afro-fantastique, où les corps sont très engagés et où on parle de notre expérience de femme noire, ou en tout cas, où on essaye de se projeter dans quel serait un avenir possible et comment on a pu se construire quand on était en France en tant que femme noire, en gros.
Alors, comme l'explique un petit peu Rebecca Chaillon, le titre, c'est un clin d'œil ironique à une pub des années 90 de la marque de café Carte Noire. En fait, c'est un parallèle avec tous les qualificatifs liés à l'alimentation qui sont souvent utilisés envers les femmes avec la peau noire. Par exemple, cacao, caramel.
Okay. Ah oui, d'accord.
Voilà. Et c'est aussi un rappel au commerce du sucre, du café et du cacao qui a asservi les esclaves et leur corps. Et donc, en plus, comme Rebecca Chaillon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler autour de la matière et de la nourriture, bah, tout ça, ça fait sens.
Ouais.
Et donc, on est tous et toutes sortis de là complètement abasourdis, avec tellement d'amour et tellement d'idées en tête. C'était super beau, c'était hyper nécessaire comme pièce, et je conseille à absolument tout le monde d'aller la voir. Justement, pour l'instant, pas de date prévue à Paris encore en 2023, mais il y a plusieurs dates partout en France et ailleurs. Donc du 8 au 10 février à Toulouse, les 15 et 16 février à Bruxelles, du 21 au 23 février à Besançon, du 28 février au 3 mars à Tours, le 7 mars au Mans et les 16 et 17 mars en Suisse.
Merci Audrey pour cette reco. Bah écoute, je suis prête à prendre mes billets de train directement pour filer, pour découvrir ce travail de Rebecca Chaillon qui a l'air merveilleux. N'hésitez pas, vous, chers auditeurs, chères auditrices, à passer votre barreau d'avocate pour défendre la veuve et l'orphelin et non PPDA et Gérard Depardieu si vous étiez tentée de devenir la Éléanor française, car l'argent ne fait pas le bonheur. Oh, super argument! N'hésitez pas à apprécier les cultures des autres sans vous les approprier. Déguisez-vous en baguette plutôt qu'en Covid. Ça vous ira mieux au teint et vous n'heurterez personne. Et si vous réfléchissez à une transition raciale, eh bien, réfléchissez. On espère que vous avez passé un aussi bon moment avec nous que nous avons aimé l'enregistrer. Et on se retrouve jeudi prochain, les amours. Alors restez drama, vous êtes des queens.
À la semaine prochaine. Les mains dans la pop est une émission de nouvelles écoutes, animée par
Mao Drama
et Audrey Coupé de Kermadec. Montée et réalisée par Ashley Tola, mixée par Laurie Galigani, enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Produite par Julien Neuville, directrice générale adjointe, Nora Issem, directrice artistique, Aurore Mailleux, directrice des productions, Marion Gourdon, chargée de production, Ashley Tola.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Les Mains dans la Pop sur votre plateforme d'écoute préférée.